soir, l'Union européenne a pris ce lundi des sanctions contre 9 personnalités congolaises. Ces personnalités sont listées pour avoir contribué à des actes constituant des graves violations des droits de l'homme en RDC, en les planifiant, les dirigeant ou les commettant. Quelle analyse faire de ces nouvelles sanctions? C'est la question du débat et nous en parlons avec Maître André Litté, le secrétaire général adjoint chargé des questions internationales du parti CCU, membre de la majorité présidentielle. Bonsoir Maître André Litté.
Bonsoir.
Maître Eric Villalé, il est membre de la plateforme Le Rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Bonsoir Maître Eric Villalé.
Bonsoir.
Et professeur Bouendoua Elouga Essi, directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et des Grands Lacs. Il est aussi recteur de l'université Julius Nyerere de Bukavu Sud-Kivu. Bonsoir professeur Bouendoua Elouga Essi.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'Union européenne a sanctionné depuis ce lundi 9 personnalités de la RDC, parmi lesquelles des ministres et des gouverneurs en fonction, des hauts responsables de l'armée, les directeurs de l'Agence nationale des renseignements ainsi qu'un chef milicien. Mais qui sont-ils? Que leur reproche-t-on? La réponse avec Donna Madimba.
Sur les 9 cités, Lambert Mende est le seul dont les griefs ne semblent pas directement liés à du sang versé. L'Union européenne le considère certes avec le directeur de l'ANER comme parmi les personnes qui gênent la construction d'un climat consensuel et pacifique pour la tenue des élections en RDC, tout comme l'UE lui reproche aussi une politique de répression des médias notamment étrangers. Kyungu Gédéon, lui, fiché chef de guerre et de milice, est tenu pour responsable des graves violations des droits de l'homme, dont les exécutions des civils et crimes de guerre. Les deux gouverneurs, Kande et Kazembe, sont pointés du doigt pour usage disproportionné de la force, responsable des violations des droits de l'homme en les planifiant, les dirigeant ou les commettant, tout comme Évariste Boshab et Emmanuel Chadari, désignés responsables des violations commises par les forces de l'ordre, puisque l'un et l'autre ont dirigé pour le cas de Boshab et dirigent actuellement pour le cas de Chadari, la police du pays. Mohindo et Ruorimbire sont responsables des exactions des soldats sous leur commandement dans les opérations sur terrain. Mohindo, par exemple, on lui reproche en plus le recrutement d'anciens combattants d'une milice locale ayant abouti à des massacres. Kalev Mouton, lui, enfin, on lui reproche aussi arrestation, détention, voire sévices contre les opposants civils et membres de la société civile.
Merci Donna Madimba Mbaya, Maître André Litté. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint chargé des questions internationales du parti CCU, membre de la majorité présidentielle. Des nouvelles sanctions, cette fois-ci, contre 9 personnalités congolaises. Comment vous analysez cela?
Bon, d'abord, je voulais d'emblée dire que c'est une vaste blague, pour la simple bonne raison que, de par ma formation de juriste, sans savater bien entendu, ça ne rentrait pas dans les classiques du droit international que nous avons appris et que nous enseignons aujourd'hui, comme également enseignant à l'université. Pour la simple et bonne raison que nous sommes là tout simplement face à un châtage de mauvais goût amené par une coalition de néolibéraux belges à la tête laquelle se trouve M. Rendes et lui Michel, pour ne pas parler de ces derniers, est conduit à la suite d'une action qu'il se reconnaissait ici par le passé. Et lorsque on lui rappelle que les Congolais étaient à même de mieux faire, contrairement à ses prétentions, il en fait un drame comme on peut le deviner. Mais qu'à cela ne tienne, d'emblée, je voudrais également, bien entendu, à réitérer cela, faire remarquer que jusqu'à la preuve du contraire, nous Congolais, nous de la majorité présidentielle, on s'affiche éperdument pour la simple et bonne raison que, en étant un record sinon à brève échéance, nous serons en mesure d'apporter une réaction répulsive par rapport aux dites actions, et cela se fera, vous vous en doutez bien, par devant la Cour européenne de justice, anciennement appelé Cour commune de justice de l'Union européenne.
Maître Litté, ces 9 personnalités viennent s'ajouter à cette autre personnalité sanctionnée en décembre dernier. Vous appelez ça vaste blague, n'est-ce pas un message pour dire que les premières sanctions n'ont pas suffi pour faire fléchir Kinshasa?
Je m'imagine peut-être qu'il y a, il y aura une troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à la fin du temps. Non, Guy Maté, la vérité c'est que, je l'ai dit tantôt, encore une fois parce qu'on parle des sanctions, quand on parle des sanctions, même pour ceux des Congolais qui ne sont pas initiés à des questions juridiques de façon générale, une sanction c'est quoi? La sanction suppose une décision ou une action prise à la contre d'un coupable. Alors, cette radio est une radio de la paix. Cette radio dans notre pays a fait le travail que vous connaissez, notamment dans l'éducation civique, notamment dans la formation, notamment la formation judiciaire, voudrais-je dire. Alors, ne serait-ce que pour le commun des mortels et pour avoir un langage beaucoup plus populaire, est-ce que ceci s'actionnait aujourd'hui? La première serait la deuxième, pour ne parler que des sanctions européennes, ont été attendues. Ceux qui ont pris des sanctions ont-ils observé les principes sacro-saints de la présomption d'innocence? Ont-ils respecté le principe du contradictoire? Ont-ils, en tout cas, accordé la possibilité aux incriminés, selon eux, à pouvoir organiser ou sinon à présenter leurs moyens de défense? Guy Maté, même ceux qui ne connaissent rien des droits, même au-delà du Congo, tout le monde peut constater, sans peine aucune, les caractères regrettables des dites actions, dirais-je, c'est politiquement motivé. Voilà pourquoi nous le disons. Comme jeunes Congolais, nous croyons que nous serons attendus par notre gouvernement. Nous engageons notre gouvernement à articuler un recours à bonne et due forme. Vous me réinviterez, je l'espère, lorsque ces sanctions-là partiront, parce que je les crois, devant la Cour de justice de l'Union européenne. Je connais cette cour pour avoir mené des études là-dessus. Je vous dis, par devant cette cour, les néolibéraux belges, avec leur valet qui se trouve en France, maqueront d'arguments face au juge. Parce que ce que je dois reconnaître en toute objectivité, même si en Europe la politique elle est ce qu'elle est, je reconnais quand même qu'il existe en Europe certains juges, certains magistrats capables de dire non face à certaines violations des droits fondamentaux. Parce que, comme vous pourriez le constater, on ne peut pas promouvoir, sinon défendre les droits de l'homme, en violant les droits de ceux à qui on reproche d'avoir violé les dix droits.
Oui, vous avez dit, là, vous avez dit, maître Littet, vous avez dit que ces sanctions ne sont pas conformes au droit international.
Tout à fait.
Vous voulez dire quoi par là?
Je veux dire tout simplement ceci. Quand vous prenez la Convention européenne des droits de l'homme, cette convention, tout le monde peut la consulter, vous remarquerez, M. Guy Maté, que par exemple, dans l'une des dispositions de cette convention, vous ne pouvez pas sanctionner pour quelque motif ou quelque prétexte que ce soit quelqu'un sans l'avoir attendu. C'est ça la présomption d'innocence, pour ne parler que de ces cas. Et même dans la Convention européenne des droits de l'homme, on rappelle que celle-ci s'appuie sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme est même enseignée dans nos écoles au niveau fondamental.
Aussi ce droit international n'a pas totalement désarmé les États.
Non, ça signifie en d'autres termes, les États du moins civilisés, je ne sais pas si ceux qui sont en Europe ne le sont pas, mais si ceux qui sont en Europe sont civilisés, je vous rappelle que en 1948, une déclaration universelle a été portée debout des droits, notamment par les États européens. Et les Européens eux-mêmes, quelques années plus tard, vous disent que nous avons une convention des droits de l'homme qui s'appuie sur cette déclaration-là. Et que lorsque vous lisez la convention européenne des droits de l'homme, on ne peut pas sanctionner quelqu'un sans l'avoir attendu, aussi bien sur le plan administratif, civil que pénal. On ne peut pas, en tout cas, sanctionner quelqu'un sans lui avoir permis d'apporter ses moyens de défense. Merci. Et ensuite, sans lui avoir accordé la possibilité d'être assisté par un avocat.
Merci, maître Littet, nous avons compris. Maître Eric Bilalé, membre de la plateforme Le Rassemblement, dirigé par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, des nouvelles sanctions contre les personnalités congolaises. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris cette nouvelle?
Oui, merci. C'est une situation vraiment normale dans la mesure où ces sanctions sont l'aboutissement d'un processus bien affûté, des enquêtes et conformément au droit international. Et je voudrais précisément revenir sur ce que venait de dire en catastrophe mon confrère André Litté, lorsqu'il affirme de façon, je crois, je peux dire légère, que les sanctions de l'Union européenne dont question ici ne rentrent pas dans le cadre du droit international. Et je suis vraiment écœuré dans la mesure où, que ce soit les traités de l'Union européenne ou encore les traités des communautés européennes, n'est-ce pas, prévoient le mécanisme des sanctions internationales à infliger par les organes exécutifs de l'Union européenne aux États ou à des personnalités individuellement ciblées, comme on dit dans le langage technique international, des sanctions intelligentes. C'est pour en fait éviter que des sanctions généralisées atteignent tout un État et aboutissent à la douleur de la population généralisée. Et cette pratique internationale part même de la pratique des Nations Unies. Depuis les années 90, les Nations Unies appliquent des sanctions ciblées. Et l'Union européenne, dans le cadre du traité sur l'Union européenne, et les traités sur la communauté européenne, les articles 60 et 301, définissent les tâches et les actions de la communauté en matière des sanctions économiques et financières.
Maître Vidalé, vous avez dit que ces sanctions ne rentrent pas dans le cadre du droit international. On sait que ce genre de questions, n'est-ce pas, sont gérées plutôt par le Conseil de sécurité des Nations Unies, selon le droit international. En fait, la primauté est réservée au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Oui, c'est une question.
Lorsque c'est une autre structure qui prend ce genre de décisions, est-ce qu'on ne peut pas dire que le droit international...
C'est une question pertinente. J'ai dit bien, ces sanctions rentrent dans le cadre du droit international. Et certainement que les Nations Unies sont prioritairement reconnues comme organisation internationale susceptible de prendre des sanctions dans le cadre du chapitre 7, mais l'Union européenne aussi, parce que l'élément fondamental et déterminant ici est que depuis la révision du traité de Maastricht, les articles 60 et 301 du traité de la communauté européenne définissent les tâches et actions des communautés en matière des sanctions économiques et financières. Et ces tâches-là rentrent dans la logique de la politique étrangère de la sécurité commune et dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions des conseils de sécurité. Et lorsque on est en présence d'un cas de figure, par exemple, je donne un exemple des violations massives des droits de l'homme telles que alléguées dans la décision du Conseil européen, le Conseil peut prendre des mesures, des restrictions individuelles ou collectives contre des personnalités ciblées. Et en la matière, parce que mon confrère a voulu dire ici qu'ils vont saisir la Cour de justice des communautés européennes, mais je pense qu'il y a une jurisprudence en la matière, un arrêt très circonstancié du tribunal de première instance des communautés européennes du 21 septembre 2005 relatif à une mesure de gel des fonds à l'encontre de personnes et d'entités liées à Oussama Ben Laden, au réseau Al-Qaïda. Et le tribunal de première instance a, dans cette décision, confirmé la validité internationale, voire dans le droit intergentiel de l'Union européenne, de ces genres, des mesures, des restrictions.
Maître, au-delà de ces débats, ouais, n'est-ce pas, des juristes, à votre avis, ces sanctions changent quoi fondamentalement? Et s'il faut faire l'évaluation des premières sanctions qui avaient été prises au mois de décembre de l'année dernière, quels sont les résultats palpables que ces sanctions avaient produits?
Dans la pratique internationale, l'objectif des sanctions internationales, c'est d'obtenir l'inflexion des politiques, n'est-ce pas, soit nationale, ou la manière d'agir de certains individus ciblés à l'international dans le cadre des attentes de la communauté internationale, au regard de ce que la communauté internationale attend de ces individus. En l'espèce, nous sommes en présence, parce que il faut le reconnaître, les sanctions internationales interviennent dans la mesure où les alternatives des règlements du différend ou d'amélioration du processus, que ce soit démocratique ou de protection des droits de l'homme, sont avérées inefficaces.
Alors, et la sanction vient
pour infléchir la politique nationale.
Voilà, et que répondez-vous à ceux qui pensent que ce genre de mesures ont toujours été inefficaces?
Non. Ces genres de mesures n'ont jamais été inefficaces. Ces mesures permettent aux individus ciblés et sanctionnés de changer de comportement et de faire évoluer la situation. Par exemple, en l'espèce, on vise l'organisation des élections dans un climat apaisé, dans le respect des principes démocratiques, dans le respect des libertés publiques, et je pense qu'on aura conscience à revenir dans le bon sens aux fins de pouvoir permettre, n'est-ce pas, l'organisation des élections dans un climat apaisé.
Merci, professeur Bouendoua Elouga Essi, directeur du Centre des recherches et d'études sur l'Afrique orientale et des Grands Lacs. Vous êtes aussi recteur de l'Université Julius Nyerere de Bukavu Sud-Kivu. Votre analyse par rapport à cette série des sanctions contre des personnalités congolaises?
Oh, d'abord, je vais commencer par saluer mes amis ici devant, André Litt et Eric Bilal, et je suis bien content de les avoir. Mais comme il a commencé notre ami André Litt à dire que c'est une vaste blague, je pense quand même que le mot est doucement, enfin dans toute sa douceur ne convient pas. Mais je dirais quand même que pour la situation qui nous concerne, s'agissant de ces personnalités, de ces faucons du régime, j'allais dire aussi de ces caciques du régime.
Pourquoi vous les appelez faucons du régime?
Parce que c'est pour cela, en fait. C'est parce que
n'est-ce pas un procès d'intention?
Ce n'est pas du tout un procès d'intention, parce que quand j'ai lu le texte de la communauté européenne à ce sujet-là, on est en train de sanctionner des gens qui, par leurs attitudes, par leurs habitudes et par tout ce qu'ils font, en fait, semble être placé du côté de ceux qui ne veulent pas que les élections se tiennent en rond, c'est-à-dire de manière cyclique. Moi, je pense que pour ne pas pencher d'un côté ou d'un autre, je dirais tout simplement que ces personnalités n'ont mérité ni un excès d'honneur, ni certainement pas cette indignité. Ils n'ont pas d'honneur parce que c'est vrai que être un État incapable d'organiser des élections, de se retrouver du jour au lendemain chaque fois repousser, les textes votés ou bien acceptés, les modifier, je pense qu'à un moment donné, ça fait un peu désordre. Et quand tu as du désordre, il faudrait bien quand même qu'il y ait des gens qui nous aident à mettre de l'ordre. Mais je dirais à mon ami, André Litt, que il y a un petit adage swahili qui dit Amlipai mwimba jindie uchagua wimbo. C'est-à-dire que c'est la personne qui paie le ménestrel qui choisit la chanson. Quand on est un État qui se met à genoux en train de quémander de quoi financer des élections qu'on ne peut pas tenir, eh ben, on ne tient pas des arguments du genre à dire, écoutez, nous allons à la coupe, c'est pas des. Bon, je pense que là, sincèrement, nous autres Congolais nous devrons aussi quand même accepter que, à un moment donné, nous ne faisons pas honneur à ce que nous devons être. Et je pense que c'est ce qui nous pousse à la limite à voir qu'il y a une communauté ou bien un groupe d'États qui peuvent se dire, eh bien, nous allons sanctionner certaines personnalités. Et ces personnalités, au nom de quoi ces personnalités doivent-elles détenir de tels biens à l'extérieur? Parce que, en fait, la plupart des Congolais sont pauvres. Moi, j'imagine quelqu'un qui a des maisons, hein, des comptes en banque garnis et avec des fortunes, en fait, ici spoliés dans des conditions qu'on connaît. Moi, cela me dit que heureusement qu'on arrive un peu à punir ces gens-là, parce qu'en fait tous les fruits des prévarications les plus éternelles, Et imaginez-vous, en fait, le simple Congolais, ici, si on lui dit qu'on va, comment dirais-je, ses avoirs, on va les geler, on gèle quoi? On gèle ce qu'il n'a pas? Mais ces gens-là, qu'on les sanctionne, moi, ça ne me dérange
voilà,
pas.
Voilà, parce que vous parlez des gels des avoirs, et on a parlé du gel des avoirs et privation des visas. Quel effet ce type de sanctions peuvent avoir sur certaines personnalités, certaines personnes comme les chefs de guerre Gédéon, qui ne sortent pas du pays? Et on se demande même s'il a des avoirs qui pourraient être concernés par ces sanctions.
Moi, je pense que quand on gèle les avoirs de ceux qui gèlent des savoirs, on n'a pas tout simplement à se plaindre. Je plaindrais au fait qu'on puisse. C'est des gens en fait qui normalement devraient relever peut-être des cours et tribunaux de ce pays. Bon, naturellement, comme ils sont au pouvoir, naturellement, qui peuvent se comporter comme cela. Mais je me dis aussi que il y a aussi des gens qui théoriquement n'ont rien fait. C'est pour cela que j'ai dit qu'ils n'ont mérité ni un excès d'honneur ni cette indignité. Il y a aussi des gens peut-être qui, normalement, au fait, c'est comme dans la fable de La Fontaine, tu vois, la Pécadie fut jugée incapendable. Il y a des gens qui ont commis de petits larcins, qui se retrouvent pris dans le vent et qui se retrouvent punis. Mais moi, je pense que, à l'ordinaire et de manière sincère, il faudrait quand même que ces gens-là payent pour ce qu'ils ont commis comme faute, et on peut observer cela.
Et il ne se pose pas un problème des droits. Vous avez suivi Maître Lité qui estime que on ne doit pas sanctionner des personnes alors qu'on ne leur a pas donné l'occasion, n'est-ce pas, de présenter leurs moyens de défense.
Guy Maté, c'est la politique qui crée le droit, et c'est la politique internationale qui crée le droit international. Celui qui vous dira autre chose est en train de vous mentir, ou bien alors, il pense que... Absolument. C'est la politique qui crée le droit. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un me dise... On a le droit d'un État par rapport à la politique de l'État. Et je peux vous assurer que si vous voulez le vérifier, regardez sur la scène politique actuelle du Congo, vous allez voir que c'est la politique qui crée le droit, les cours constitutionnels et tout. Mais je n'entre pas là-dedans, c'est des questions épistémologiques auxquelles je ne vais pas m'attarder.
Professeur Bouendoua Elouga, et si, quel est le sens que le gouvernement congolais devrait donner à ces sanctions? Devrait-il les prendre avec considération ou carrément les banaliser?
Les Congolais n'ont pas les moyens, les politiciens congolais n'ont pas les moyens de dire quoi que ce soit parce que notre pays a été rabaissé à un niveau tel que quand on est incapable d'organiser des élections dans de bons termes, hein, je vous assure qu'on se retrouve en train d'aller quémander et c'est bien malheureusement, je pense que nous avons des autorités qui peut-être œuvre pour le mieux, mais dans la situation actuelle, je pense que ceux qui ont pu commettre des larcins, des fautes politiques, qu'ils en répondent.
Oui, Maître André Lité, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient de Mbandaka.
Je suis M. Augustin, je vous appelle à partir de la ville de Mbandaka. L'Union européenne a totalement raison d'imposer les sanctions aux autorités congolaises qui savent le bon déroulement du processus électoral. Il ne suffit pas d'être un ange ou un magicien pour comprendre comment le gouvernement congolais défie la communauté internationale. À notre avis, nous pensons que ces sanctions doivent se limiter au niveau individuel et ne pas avoir des conséquences sociales si la pauvre population congolaise déjà meurtrie par la mauvaise gouvernance des autorités en place. Aux autorités congolaises, nous pensons qu'il faut réajuster les tirs, surtout en matière de droits de l'homme et de liberté d'opinion. La non-autorisation des meetings des opposants de bien certains temps est une illustration éloquente. Car, démêler dans la façon actuelle de gouverner, pousserait la population à sanctionner les dirigeants actuels en lien et place de l'Union européenne.
Maître André Lité, votre réaction?
Je voulais, bien entendu, réagir de façon globale. Je me perds en conjecture lorsque j'ai écouté notre aîné Elouga ici. Je suis scandalisé. Parce que il m'a dit quelque chose d'un adage à Swahili, je ne voulais pas pour économiser l'État que je, moi qui comprends les Swahili, nous demandons des moyens pour organiser des élections. Est-ce que puis-je lui rappeler, parce que là, j'ai appris tout à l'heure qu'il est recteur d'une université à Bukavu, ceux qui ont envahi cette ville-là, pour ne parler que de Bukavu, c'était des Congolais, je ne sais pas s'il me dira oui. Ce sont des Occidentaux avec les Rwandais interposés, qui ont détruit l'État complètement chez nous. Et je me demande si monsieur était en exil ou en Europe. Je suis désolé parce que moi, j'étais à Isiro Et j'ai vécu ce que les armées ougandaises ont fait chez nous. Parce que Guy Maté et tous les auditeurs de la radio Okapi qui m'écoutent, un État c'est quoi? Un État c'est comme un enfant qui naît. Nous sommes nés en 60. Déjà en 60, les Nations Unies viennent ici. Pourquoi? Parce que les Européens ont estimé que Lumumba et ses compagnons n'avaient pas raison par rapport à ce qu'ils étaient en train de dire à terme de rêve pour le devenir de notre pays. Nous sommes vers les années 90.
Revenons aux sanctions. Le lien entre l'aspect que vous évoquez et les sanctions, c'est quoi?
J'en viens aux sanctions. Mais c'est Guy Maté, j'en viens aux sanctions. Alors, lorsqu'il dit nous tendons la main, en 2006, l'Union européenne a financé les élections ici, tout simplement parce que l'Union européenne, avec Grande-Bretagne à leur tête, ont détruit les structures de l'État ici, notamment de l'État civil. Ils ne pouvaient que faire ça. Et moi, je voudrais d'ailleurs dire qu'on se les tienne pour dire, une fois pour toutes, aujourd'hui, on nous demande de geler nos forêts. Parce qu'en Europe, on doit vivre, au Canada, on doit vivre. En d'autres termes, si aujourd'hui nous demandons de l'Union européenne 50 100 millions, en contrepartie, ils reçoivent de l'oxygène des Congolais qu'on aurait pu également utiliser pour autre chose. C'est que, de ce fait, nous sommes dans une situation, ils nous donnent peut-être ces billets-là à l'instant, mais nous avons, en tout cas,
maturité.
De l'oxygène ici qui fait vivre des petits Européens. Permettez, Guy Maté, deuxième préoccupation, pour maintenant préciser par rapport aux sanctions. Par rapport aux sanctions, je voulais tout simplement que nous n'avons pas à confondre les gens. Les confrères du Rassemblement, que je salue
Maître
en passant,
Maître Bilal
du Rassemblement, vous aurez remarqué qu'un bon juriste, il a évité de rencontrer, évidemment il n'est pas obligé de parler comme moi, mais il a évité de dire ici, lui qui est connaisseur et initié en droit, que la présomption d'innocence, le principe du contradictoire et les droits de la défense sont garantis. Parce que Guy Maté, même ici à la radio Capi, il se pourrait que l'un de vos collègues se méconduise ici, je n'accepterai jamais, si je suis son avocat, qu'il soit sanctionné sans avoir été attendu.
Maître Qualité, écoutez, on revient aux sanctions.
Oui, nous sommes aux sanctions.
Est-ce que vous en tant que cadre de la majorité présidentielle,
oui.
Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi certaines personnalités congolaises sont la cible actuellement, n'est-ce pas, de certaines puissances occidentales?
Justement, on s'est déjà posé la question, nous avons la réponse.
Et je vais vous démontrer.
La réponse, c'est tout simplement parce que il y a indocilité, nos dirigeants actuels sont indociles vis-à-vis des Européens. Les Européens voudraient une ligne de conduite donnée. Et ici, aujourd'hui, on dit non. Par exemple,
alors qu'on appellerait le néocolonialisme.
Pas seulement néocolonialisme, je voudrais illustrer cela. Le président Kabila gagne les élections en 2006. En 2008, on a un financement innovant avec les Chinois. Vous avez vu Dominique Strauss-Kahn venir personnellement ici nous dire qu'on ne devait pas signer avec les Chinois un contrat de 9 milliards de dollars. Après lui, c'est Sarkozy qui est venu pour nous dire devant notre Parlement qu'il n'en voulait pas parce qu'il y avait des problèmes. Autant vous dire qu'aujourd'hui, s'il y a ce genre de sanctions, c'est tout simplement justifié par des motivations politiques. Et que de ce fait, lorsque, par exemple, pour la liberté d'expression, vous dit, le ministre qui est en charge des médias n'a pas permis à ce que certains médias étrangers puissent œuvrer ici. Guy Maté, VOA n'est pas un média étranger.
Merci,
BBC n'est pas un média étranger.
On va y revenir. Voilà. Maître Bilalé, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouli, Kassama depuis Lubumbashi, dans la province de Haut-Katanga. À mon avis, ces sanctions ne vont pas dissuader les concernés à se conformer aux règles des droits de l'homme. Et ça ne va pas aider à décrisper la situation politique dans ce pays. Car certains dirigeants des pays africains ont été frappés par les mêmes sanctions de l'Union européenne, notamment les Zimbabwéens, les Soudanais et autres. Ça n'a pas changé leur façon d'agir. Je pense que seule la volonté politique du chef de l'État pourra décrisper la crise dans ce pays. Il est grand temps que l'Union européenne repense ses stratégies de sanctions pour dissuader ceux qui violent les règles et principes de la démocratie.
Maître Bilalé.
Oui, merci. Je voudrais, juste avant de répondre à cette préoccupation de Lubumbashi, rappeler à mon confrère qu'il ne faudrait pas invoquer des expressions inappropriées par rapport au contexte. Lorsqu'il invoque le principe du contradictoire, la présomption d'innocence, je crois que c'est inapproprié dans le contexte actuel, dans la mesure où les enquêtes et la décision prise par le Conseil européen, n'est-ce pas, les sont dans le cadre de l'exécutif. Ils disent qu'ils vont porter plainte devant la Cour de justice des communautés européennes. Ils vont le faire. Mais à ce que je sache, la Commission européenne a mené des enquêtes sérieuses. Et vous allez me dire que des sanctions qui doivent être prises de manière ciblée à l'encontre des individus qui violent le droit de l'homme, ces individus qui sont... enfermés par eux-mêmes, qui n'entendent rien. On va les entendre.
Mais vous allez, vous êtes juriste. Vous voulez dire que le principe de la présomption d'innocence ne doit pas être démise dans les cas des faits.
J'ai dit simplement que le principe de la présomption d'innocence ne peut pas être invoqué ici, dans la mesure où la sanction telle qu'est prise, elle n'est pas une sanction juridictionnelle. C'est-à-dire que le principe demeure, parce qu'ils vont saisir les juridictions s'ils veulent le faire. Le principe va demeurer. Ils ne sont pas condamnés par un juge. Ça, c'est une décision de l'exécutif. Ça n'a rien à voir avec une décision juridictionnelle. Ce qui fait que cette décision n'entame en rien le principe des présomptions d'innocence. En l'espèce précisément. Et ce qui fait que la décision est bel et bien fondée. Et en ce qui concerne, par exemple, comme le confrère l'a invoqué tout de suite, l'a dire que les sanctions violent le droit international, moi je crois que le monsieur de Mbandaka a bien invoqué la question, parce que même le rapport de l'ECOSOC qui a fondé même les sanctions ciblées dénote que les sanctions généralisées faisaient mal aux États, c'est pourquoi il fallait recourir aux sanctions les plus ciblées. À la réponse de monsieur de Lubumbashi, je voudrais dire que les sanctions qui ont été infligées, par exemple, au niveau du Zimbabwe, ont été des sanctions qui ont été vraiment généralisées. C'est dans cette logique même que l'Union européenne commence par des sanctions ciblées. Et les sanctions ciblées touchent directement les individus concernés dans le cadre de la commission de crimes ou des violations massives des droits des
maîtres
l'homme.
Maître Bilalé, vous avez suivi Maître Litté qui a promis qu'il y aura une réaction de la part du gouvernement congolais. Est-ce que le gouvernement congolais peut recourir au principe de la réciprocité, par exemple en initiant une série, n'est-ce pas, des sanctions contre certaines personnalités des pays occidentaux?
Bon, écoutez, en droit international, la sanction, en principe, est un acte qui vient entamer le droit international. Mais parce que cet acte-là est une réaction à la violation du droit international et que cet acte, la sanction internationale, vise à faire cesser l'illicite à l'international, ces actes sont valides en droit international. Que le gouvernement congolais puisse procéder par la réciprocité en sanctionnant les personnalités européennes, je crois que d'aventure, ça ne marchera pas. Dans quelle mesure? Parce que c'est l'Union européenne, ça n'est pas les États. Dans le cas des États, on parle de contre-mesures ou de mesures de représailles, selon le cas. Mais ici, nous sommes dans le cadre de sanctions multilatérales. Et d'ailleurs, si vous lisez minutieusement la décision de l'Union européenne, elle laisse une brèche au dialogue. Elle propose même le bon office à un très haut niveau dans les cadres des accords de Cotonou, l'article 8, qui est un article très important dans cette convention de partenariat entre l'Afrique, les Caraïbes et l'Europe, qui exige notamment, dans le cadre de la coopération, le respect des droits de l'homme et des principes de démocratie.
Merci, Maître Eric Bilalé. Professeur Bouendo Elouga Essi, il y a aussi une question qui vous est adressée. Elle vient une fois de plus de Lubumbashi.
Maxime Kabila, j'appelle depuis Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Sanction de trop qui ne change rien dans la manière de faire la politique en RDC. Vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas de consensus entre les deux camps pour une solution négociée. Entendez, majorité présidentielle et rassemblement de l'opposition qui se réfutent mutuellement, d'où la tension que nous observons au jour le jour sur le terrain politique. À mon avis, au lieu des sanctions qui deviennent monotones et sans succès, Je proposerai la diplomatie comme moyen qui, pour mon avis, pourrait amener les changements dans l'agir des uns et des autres.
Professeur Bouindoua.
Oh là là, je suis bien content, comme son nom ne l'indique pas, Monsieur Maxime Kabila. Je partage foncièrement ou grossièrement, ça dépend des cas, sa réflexion. Mais j'aimerais bien rappeler à mes amis Litt et Bilal que nous tous nous avons fait des études de droit et que on peut toujours s'en gargariser ou bien à la limite. Mais ce que je voudrais dire que avant que chaque État, que n'importe quel État, que tout État respecte, avant de faire respecter le droit, il faut d'abord soi-même respecter le droit. On n'arrive pas tout simplement à les dire qu'on va faire respecter le droit, on va recourir à la cour, on va recourir, mais il faudrait d'abord qu'à l'interne, d'une manière réelle, on puisse faire respecter le droit. Et je pense que là, nous avons véritablement des cas d'espèce où on voit qu'on n'a pas respecté la Constitution, c'est ça notre problème. Quand on ne respecte pas la Constitution, il ne faut pas penser qu'on va la hiérarchie des normes. On va essayer de faire respecter quoi que ce soit. Et moi, je pense que notre problème dans, à l'intérieur de la République, c'est que tout simplement, nous nous sommes mis en dehors de la loi, en dehors des règles, en dehors de la Constitution. Et moi, je me dis que quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limites. Et là, maintenant, nous nous retrouvons vraiment dans des endroits où le non-droit, l'absence du droit, l'ignorance du droit... L'agissement en dehors du droit nous conduit dans des eaux les plus fangeuses et les plus, à la limite, inacceptables.
Vous avez suivi les auditeurs qui reviennent sur le caractère inefficace de ce genre de mesures. Et ils prônent, n'est-ce pas, ils demandent à l'Union européenne de pouvoir repenser ces stratégies.
Non, je pense que, comme on nous l'apprenait assez souvent, l'État, chaque État fonctionne à l'idéologie et à la répression. C'est-à-dire, idéologiquement, c'est nos amis d'Europe frappent là où ça peut aller, mais répressivement aussi, ils vont y aller. C'est-à-dire que quand on touche à la bourse, la plupart des gens, ils sont sensibles. Et ils sont sensibles pourquoi ? Parce qu'au fait, ce sont des gens qui pillent la République et qui vont mettre cet argent dans des maisons à l'étranger parce qu'ils pensent bien qu'au cas, au moindre petit problème, ils peuvent se sauver, aller en Europe où ils ont réfugié leur fortune. Et moi, je pense que là, à la limite, on peut leur dire, eh ben, vous ne bougez pas du Congo, la fortune que vous n'y avez pas investie, celle que vous avez mise à l'extérieur, eh ben, nous allons voir comment. Mais moi, je pense que ces sanctions-là, même rien qu'idéologiquement, rien que répressivement, elles font réfléchir les personnes qui, de toutes les manières, sont ciblées.
Et après ces nouvelles sanctions, comment vous entrevoyez la suite du processus politique en RDC ?
La suite politique en RDC, je pense qu'on est sur des bonnes bases, on est en train de faire des enrôlements, le président s'est lui-même enrôlé. Je pense qu'avec beaucoup de bonne foi, nous pouvons arriver réellement à sauver le processus, à nous comprendre, à nous entendre, et même si, bon, on a le Premier ministre qui est là, comme disait Hegel, tout ce qui est réel est rationnel, tout ce qui est rationnel est réel. Œuvrons pour les 6 mois pour sauver la République, pour nous sauver, pour sauver le processus et pour enclencher, comment dirais-je, une démarche de saut qualitatif plutôt que nous enfoncer dans les eaux fangeuses.
Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se rend compte que, après avoir pris des sanctions, les personnes contre lesquelles ces sanctions ont été prises, ces personnes ne modifient pas leur comportement, ne s'amendent pas?
Oh, je pense, je vais pas les condamner au purgatoire ou bien à l'enfer. Mais je pense qu'une fois qu'on sait très bien qu'on, de manière, je vois la liste, ces gens-là ne peuvent pas dire que ce sont des gens irréprochables. Quand on fermait des médias, quand il y a des charniers qu'on ne peut pas nommer, quand il y a des comportements quand même qui demandent des interrogations, des enquêtes qui n'aboutissent pas. Il y a beaucoup de choses qui sont là, mais à la limite que ces gens-là s'amendent. Et puis après tout, bon ben. Tout péché mérite miséricorde. On va comprendre que on peut avancer, on peut envisager l'avenir sans constamment avoir les yeux tournés vers le passé.
Maître André Litt, après ces nouvelles sanctions, comment vous entrevoyez l'évolution, n'est-ce pas, de la vie politique dans ces pays?
Guy Maté, je voulais préciser une chose. Je voulais vraiment estimer confrère Bilal. Je voulais que l'on s'accorde là-dessus. C'est que le principe, les trois principes auxquels je fais allusion, que ce principe est là, à savoir la présomption d'innocence, le contradictoire et la garantie du droit de la défense, vous les trouvez dans la Convention européenne des droits de l'homme, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Charte africaine des droits de l'homme, dans le protocole international relatif aux droits politiques, civils.
On ne va pas revenir sur les débats, des juristes.
Mais non, ce n'est pas un débat des juristes. Vous savez, c'est ça notre problème en Afrique, M. Guy Maté. En Afrique, on pense que les droits, c'est les autres. C'est comme ça que nous les défendons si mal. Nous les comprenons parfois mal.
Voilà, malheureusement, on n'a pas tout le temps avec
vous. Ce sont des questions de vie quotidienne. Ça signifie quoi? Ce que je voulais que vos auditeurs retiennent, c'est que même à la radio Okapi, il se pourrait que je sois agent à la radio Okapi, on me reproche quelque chose. On doit m'accorder la possibilité
de présenter
d'être
vos moyens de défense
par rapport, oui, c'est du droit naturel.
Voilà, et comment vous entrevoyez la suite du processus politique en RDC après ces sanctions? Est-ce que ça peut faire changer les choses?
Non, d'abord, moi, je suis l'un des Congolais qui croit à l'avenir de ces pays. Je vous ai parlé du financement innovant obtenu à l'époque par le président Joseph Kabila. Il y en a encore d'autres qui sont en cours. Parce qu'en fait, nous, la coalition au pouvoir, nous pensons que nous avons des arguments à faire valoir dans ces pays. Et que naturellement, il arrive qu'on nous épite des choses. Mais dans la gouvernance, vous savez, on ne gouverne pas innocemment. Nous restons convaincus que par rapport au processus en cours, j'ai entendu tantôt qu'on s'est mis en marge de la Constitution, alors que tel n'a jamais été le cas. Vous savez, l'impossible nul n'est tenu. On s'est retrouvé dans une situation où notre croissance a avoisiné les deux chiffres. Je ne voulais pas parler de la macroéconomie ici, pour ne pas apprêter langage savant. Mais qu'en même temps, brusquement, au niveau international, on s'est retrouvé avec l'effondrement des cours de matières premières.
Merci. Maître Bilal, comment vous entrevoyez la suite du processus politique en RDC?
Je crois que nous ne sommes pas à la même longueur d'onde. Peut-être qu'on ne se comprend pas. Quand j'ai dit que l'invocation du principe des présomptions d'innocence à ces niveaux est inappropriée, c'est peut-être l'appréhension du principe qui poserait problème. Le principe des présomptions d'innocence, c'est simplement un principe qui voudrait que toute personne soit considérée comme innocente tant qu'il n'y a pas un jugement inattaquable rendu par un
au-delà
juge,
de tout cela, les condamnants, Maître Bilalé,
n'est-ce pas? En l'espèce, j'ai dit que ce principe demeure.
Maître
Bilalé, vous pouvez l'invoquer devant les juridictions.
Maître Bilalé, on
mais
pas,
ces principes-là n'élient pas un exécutif.
Maître Bilalé, on n'a pas assez de temps. Ouais. Comment vous entrevoyez la suite du processus politique en RDC après ces sanctions?
Je crois que j'ai la foi. Je pense que les intéressés vont modifier leur comportement afin de mener à bon port le processus électoral et assurer la décrispation politique en faisant appliquer l'accord du 31 décembre 2016, en acceptant de signer sous les auspices de nos pères évêques les arrangements particuliers qui ont été étranglés de manière inacceptable et qu'il y aura les élections tant attendues par le peuple congolais au fin de l'alternance.
Merci, je considère ça comme votre conclusion. Professeur Bouendoua Elouga, est-ce votre conclusion?
Ma conclusion elle va être à mes amis Bilal et mon ami Lit. Je vais leur rappeler quand même un petit truc en Kiswahili qui dit « Lam gambo likili akuna jambo ». S'il y a des sanctions, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là-dedans. Et il y a quelque chose qui est normalement, si au fait on est en train de...
Maître, s'il vous plaît, laissez le professeur parler. Professeur, vous avez la parole.
Merci beaucoup. C'est que tout simplement ces sanctions-là devraient nous aider à nous mettre sur les bons pour vraiment les fautes que nous avons commises les uns et les autres, que nous puissions quand même nous diriger vers la pacification des cœurs, des âmes et des corps.
Merci, Maître Elite, votre conclusion.
En tout cas, d'abord, déjà, l'accord de la Saint-Sylvestre, est en application d'un premier ministre du Rassemblement. Personne ne peut contester Bruno Tshibala comme un de ces regroupements politiques. Aussi, je voudrais rappeler à notre ami qu'on a formé un gouvernement d'union nationale où nous trouvons des personnalités du Rassemblement siégé. Bon, s'il y a des dissidents, c'est un débat entre les différentes ailes du Rassemblement. Vous n'avez qu'à régler cela. Vous n'avez qu'à régler cela comme le président vous l'avait demandé à son temps, même autrement que d'arrêter le pays qui
Merci.
Doit avancer.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Paul Lobadjaniama qui était à la technique. Merci à Alain Rungtelin, Kouté, Berry Franklin, Luchaka sous la supervision de Suzanne Nzobo. À la présentation, Guy Maté. Merci à ces mercredis pour un autre débat sur Radio Capi.